journal de 7h par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous serons en Géorgie pour commencer ce journal. Ce pays du Caucase est déchiré par le vote d'une loi censée contrer les influences étrangères. En réalité, mater les oppositions à l'image du voisin russe, nous le verrons.
Valérie Pécresse suspend les financements de la région Île-de-France à Sciences Po Paris après l'occupation du campus par des étudiants pro-palestiniens.
Et puis les patrons du CAC 40 sont 130 fois plus payés que leurs salariés. Un écart encore en hausse selon Oxfam. Après ce journal, Marguerite Caton, votre question du jour.
La discrimination pousse-t-elle les musulmans à l'exil ?
Réponse à 7h15. Faire taire les oppositions en prétendant lutter contre les influences étrangères. Une stratégie typique des gouvernements autoritaires de Hong Kong à la Russie. C'est le même type de loi qui, en Géorgie, déchire le pays. Ce week-end, des milliers de personnes sont descendues, en effet, dans les rues de la capitale, Tbilissi, pour protester contre le projet de loi sur l'influence étrangère, jugé liberticide par l'Union européenne. S'il est adopté, il contraindrait notamment toute ONG ou tout média recevant plus de 20% de son financement de l'étranger, à s'enregistrer en qualité d'organisation défendant les intérêts d'une puissance étrangère. Ses contempteurs l'appellent la loi russe, d'abord parce qu'elle ressemble fortement au texte du Kremlin qui en 2012 a permis de mater toutes les oppositions, d'autre part parce qu'elle est considérée comme un moyen pour le pouvoir géorgien de faire revenir le pays dans la sphère d'influence russe. Conviction tout à fait renforcée après la contre-manifestation organisée hier par le parti au pouvoir, le rêve géorgien de l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Écoutez le reportage de notre correspondant en Géorgie, Régis Janté.
Patrie, langue, orthodoxie, cela aura été le slogan de l'énorme manifestation du parti au pouvoir, le rêve géorgien, ce lundi soir. Comme jamais, les dirigeants de la majorité se sont montrés anti-occidentaux. D'abord, sur le plan des valeurs, disons, dépeignant l'Occident comme facteur de décadence, à l'image du maire de Tbilissi, l'ancien footballeur Kara Kaladze.
Ils prétendent que le blanc est noir, que la transparence est mauvaise, que la propagande homosexuelle est bonne. Ils prétendent que les ONG ont le droit de faire autant de révolutions qu'elles veulent et que nous n'aurions pas le droit de poser des questions sur l'origine de ces financements.
L'Occident, sur lequel la Géorgie s'est tant appuyée depuis 3 décennies, est soudain coupable de tout. Propagande LGBT, pédophilie, drogue, mais surtout de la guerre. C'est ce qu'a affirmé ce lundi soir l'homme fort de la Géorgie, l'oligarque Bidzina Ivanishvili.
Les grandes décisions sont prises par le parti global de la guerre, les ONG, qui ont une influence décisive sur l'OTAN, l'UE, et voient la Géorgie et l'Ukraine comme de la chair à canon. Ils ont provoqué la confrontation de la Géorgie avec la Russie en 2008, en 2014 et 2022. Ils ont mis l'Ukraine dans une situation encore plus difficile.
Ces arguments portent auprès d'une foule qui, certes drainée là en minibus depuis tout le pays, grâce à une organisation très rodée, adhère de plus en plus au message martelé par le pouvoir depuis des mois, créant un fossé de plus en plus marqué entre deux Géorgies.
Régis Janté. Au Kenya, une saison des pluies meurtrières, accentuée par le phénomène climatique El Niño. Les inondations ont fait céder un barrage près de Nairobi faisant 45 morts, ce qui porte à 120 le nombre de victimes de ces intempéries. Et dans le même temps, en Asie du Sud-Est, une vague de chaleur rend la vie quotidienne impossible. En Thaïlande, par exemple, les températures atteignent 44 degrés dans plusieurs provinces, 50 degrés ressentis à Bangkok, la capitale. Une canicule qui touche en particulier les plus pauvres parce qu'ils ne disposent pas de l'air conditionné et exercent souvent des métiers d'extérieur. Le reportage sur place de Carole Izou.
Depuis quelques jours, la chaleur dans les rues de la capitale thaïlandaise est telle qu'il est devenu pénible de sortir de chez soi entre 10h du matin et 6h du soir. Ceux qui s'y risquent tentent de se protéger avec des ombrelles, mais beaucoup n'ont pas le choix. Comme Pinuk, un chauffeur de moto-taxi, maillon essentiel de la chaîne des transports urbains en Thaïlande. À 60 ans, il a déjà fait un malaise qui l'a conduit à l'hôpital il y a quelques jours. Mais le voilà de retour avec, pour affronter la chaleur, les moyens du bord.
Vous voyez, j'ai un petit linge mouillé. Je le mets sur ma tête pour éviter de refaire un malaise. Avec cette chaleur, c'est insupportable de faire plus de 500 mètres à moto sous le soleil. Alors on ne fait que des petits trajets, donc on gagne moins d'argent aussi.
Les médecins thaïlandais déplorent plus de 30 morts par insolation depuis le mois de janvier. Les autorités appellent à la vigilance alors que de nouveaux records de température viennent d'être atteints partout dans le pays. La réalité du changement climatique ne fait aucun doute pour la plupart des Thaïlandais. S'il venait à dépasser les 2 degrés, l'Asie du Sud-Est serait parmi les régions du monde les plus affectées et pourrait atteindre le seuil des 220 jours de chaleur extrême par an.
La trêve si longtemps discutée entre le Hamas et Israël à Gaza pourrait être actée aujourd'hui. Le Hamas doit donner sa réponse sur un projet de cessez-le-feu de plusieurs semaines contre la libération d'otages israéliens. En déplacement en Arabie Saoudite, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a dit lui aussi espérer une réponse favorable du Hamas à une proposition, je cite, « extraordinairement généreuse de la part d'Israël ». Elle comprend un cessez-le-feu de 40 jours ainsi que la libération de milliers de prisonniers palestiniens. L'Égypte également affirme avoir bon espoir. Aux États-Unis, ce conflit Israël-Hamas a engendré plusieurs occupations de campus par des étudiants contestant la politique d'Israël dans l'enclave. Des affrontements ont parfois eu lieu, comme à Los Angeles, entre partisans des deux camps ou bien entre pro-palestiniens et la police. Et si en France les universités sont moins touchées, ce type de mobilisation existe tout de même essentiellement à Sciences Po Paris, ce qui a décidé la région Île-de-France, dirigée par la droite, à suspendre ses financements à l'école. Décision de la présidente LR, Valérie Pécresse, après l'occupation mouvementée de Sciences Po vendredi par des manifestants, donc pro-palestiniens. Les crédits régionaux resteront suspendus tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies, explique l'ancienne candidate à la présidentielle. Les précisions de Stanislas Vazak.
À en croire Valérie Pécresse, Sciences Po Paris serait aujourd'hui menacée par une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémites, des radicalisés, je cite toujours, instrumentalisés par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes, qui ne peuvent pas dicter leur loi à l'ensemble de la communauté éducative, martèle la présidente de la région Île-de-France. Il reste que sa décision ne met pas en péril la prestigieuse école parisienne. La part régionale dans le financement de Sciences Po se limite à 1 million d'euros cette année, dans le cadre du contrat de plan État-Région, auquel il faut ajouter divers crédits de fonctionnement. Soit une goutte d'eau dans un budget total de 200 millions d'euros en 2019. Mais l'essentiel est ailleurs pour Valérie Pécresse, dénoncer l'accord conclu entre la direction de Sciences Po et les étudiants pro-palestiniens, la promesse d'un débat interne et le gel des sanctions disciplinaires contre l'engagement de ne plus perturber les cours. Une soumission insupportable avait fustigé le patron de LR, Éric Ciotti. À l'inverse, à gauche, la suspension des crédits régionaux à Sciences Po ne passe pas. Une honte et un scandale absolu pour la chef des députés insoumis Mathilde Panot. De leur côté, les élus socialistes au Conseil régional reprochent à Valérie Pécresse un deux poids deux mesures en matière de subventions. En l'occurrence, son silence radio lorsqu'un ancien directeur d'internat du lycée Stanislas a été accusé d'avoir consulté des sites pédopornographiques.
Et puis toujours sur cette question du conflit israélo-palestinien, la convocation ce matin par la police française de 2 élus de la France insoumise, Mathilde Panot, chef de file des Insoumis à l'Assemblée, et Rima Hassan, candidate LFI aux Européennes. Elles vont être entendues toutes les deux par des enquêteurs pour apologie du terrorisme, en cause des propos tenus par les 2 femmes après les massacres du Hamas le 7 octobre. LFI organise en soutien une manifestation ce matin à 8h30 devant le Palais de Justice de Paris et dénonce une censure. Antoine Marette.
Mathilde Panot va devoir s'expliquer sur un communiqué de son groupe parlementaire publié le 7 octobre dernier, jour où le Hamas avait attaqué Israël. Ce texte a suscité la polémique car faisant un lien entre l'attaque du mouvement terroriste palestinien décrite comme une offensive armée et, je cite, « l'intensification de la politique d'occupation israélienne » dans les territoires palestiniens. Quant à Rima Hassan, 7e sur la liste LFI, elle est convoquée pour des propos tenus entre le 5 novembre et le 1er décembre. Elle avait notamment qualifié l'armée israélienne d'armée, je cite, « la plus immorale du monde », tout en reconnaissant le mode opératoire terroriste du Hamas. Ses adversaires lui reprochent d'attiser la haine contre Israël. Rima Hassan dénonce de son côté des pressions politiques visant à compromettre sa liberté d'expression. Mathilde Panot évoque quant à elle une tentative de censure du pouvoir en rappelant l'annulation à plusieurs reprises de conférences de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan en pleine campagne électorale.
Et dans le journal de midi 30, le politologue Gérard Grimbert sera l'invité de la rédaction pour décrypter cet investissement de LFI dans la cause palestinienne.
En attendant, il est 7h09 sur France Culture. Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain à Paris.
Oui, l'acteur est déjà mis en examen pour viol, mais on a appris hier qu'il serait bien jugé pour deux affaires d'agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage en 2021, celui des volets verts de Jean Becker. Un procès donc se tiendra en octobre. À ce stade, une vingtaine de femmes ont dénoncé contre l'acteur des faits qui vont de l'outrage aux violences sexistes en passant par du harcèlement ou des agressions sexuelles. Gérard Depardieu est par ailleurs mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle sur une jeune comédienne, Charlotte Arnoux. On y reviendra dans le journal de 8h. Les PDG du CAC 40 n'ont jamais été autant rémunérés. C'est ce que révèle une note publiée aujourd'hui par l'ONG Oxfam qui calcule que les salaires des capitaines d'industrie sont désormais 130 fois plus élevés que ceux de leurs salariés. Mais ce que note aussi l'ONG de développement, c'est que si les patrons du CAC 40 sont surrémunérés, à l'image de Carlos Tavares, PDG de Stellantis et de ses 36 millions d'euros, c'est avec le complet accord de leurs actionnaires. Un signe pour Léa Guérin, chargée de plaidoyer au sein d'Oxfam, que ces salaires sont le fruit d'un intérêt commun et non la récompense de performance qui serait exceptionnelle. Écoutez-la au micro de Valentin Grille.
On essaye de mettre de la logique. Parfois, là, il n'y en a pas. Prenez la rémunération de Stellantis, qui a fait beaucoup de bruit cette année, qui est à hauteur de 36 millions. Elle était à hauteur de 66 millions en 2021. Pourtant, il avait les mêmes nombres de marques le même périmètre entre ces deux années. Nous, ce qu'on veut plus montrer, c'est cette espèce de spirale infernale, on va dire, entre actionnaires et PDG. Cette note, elle montre non seulement les inégalités salariales, mais la relation toxique qui existe entre actionnaires et PDG. Et on le voit facilement parce que entre 2019 et 2022, donc en 3 ans, les rémunérations des salariés du CAC 40 ont augmenté de 9%, mais celles des PDG de 27%. Donc, quand même qu'un système à double vitesse, on a pu montrer aussi avec le lien qui existe entre PDG et actionnaires via ces rémunérations qui sont indexées principalement sur des objectifs financiers, voire des objectifs à valeur actionnariale.
Les salaires des PDG, ce sera aussi le sujet du décryptage Écho dans le journal de l'Écho tout à l'heure à 7h30. On termine ce journal en Allemagne où l'un des projets de construction les plus ambitieux du moment suscite la controverse. Il s'agit de la gare de Stuttgart, 6e ville du pays au sud-ouest de l'Allemagne qui devait initialement voir le jour en 2019. Mais les travaux ne sont toujours pas terminés et les coûts de construction ont explosé. Désormais, la Deutsche Bahn et les autres partenaires du projet s'affrontent devant les tribunaux pour savoir qui va payer la facture. À Berlin, Sébastien Baer.
À son lancement, au milieu des années 90, le projet présenté comme futuriste était estimé à 2,5 milliards d'euros. Mais année après année, les coûts se sont envolés. 4,5 milliards en 2009, 6 milliards en 2011, 10 en 2022. La dernière estimation dépasse désormais les 11 milliards, soit 4 fois le montant de départ. La facture a enflé au fur et à mesure que les travaux prenaient du retard. L'inauguration de la gare souterraine, prévue en 2019, n'aura finalement pas lieu avant la fin d'année prochaine, car sur le chantier, les difficultés se sont accumulées. La construction des colonnes qui doivent donner à la gare l'allure d'une cathédrale du XXIe siècle a été plus compliquée que prévu, tout comme les opérations de forage et la numérisation. La Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande, s'est tournée vers ses partenaires pour partager la facture, mais la ville, la région et l'aéroport refusent de payer davantage. Quand elle sera enfin mise en service, la gare, qui ne sera plus un terminus mais une gare de transit, placera Stuttgart au cœur d'un axe ferroviaire est-ouest de 1500 km entre Paris et Budapest. Si l'édifice est inauguré fin 2025, le chantier aura duré près de 16 ans, un nouveau record qui vient presque faire oublier les 14 années de construction de l'aéroport de Berlin.
Le temps de ce mardi en France, des orages sur une petite moitié est cet après-midi et une perturbation qui arrive par l'ouest ce soir. Les températures se radoucissent, 8 à 16 degrés ce matin, 13 à 22 cet après-midi. C'est la fin de ce journal. Et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
Merci Anne-Laure Chouin. Avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton, les discriminations poussent-elles les musulmans à l'exil. Ce 30 avril, dans le calendrier révolutionnaire, à 7h14, c'était le jour de la rhubarbe, ce qui est particulièrement difficile à illustrer à la radio. N'est-ce pas, Félicie, on essaye quand même. Non, c'est pas terrible pour une rhubarbe.
Tiens, bof. Bon, ben, on va se préparer pour l'autre jour, le jour du chou kale.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Marguerite Caton, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Ce matin, l'exil de nos certains